you fall, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feeling. I feel the same about you. What I am is what you wanna be. You're not, I'm nothing. I took the tables away from you. It's turning, I don't care. And when I get that feeling, I can no longer slide. I can no longer run, no, no, no. And when I get that feeling, I can no longer hide. Oh, it's no longer fun, no, no, no. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. You can tell me your reasons, but it won't change my feeling. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feeling. I feel the same. Try to sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I close mine. The sun will shine from time to time. Oh, when you dream of me, yeah. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. You can tell me your reasons, but it won't change my feeling. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same.
La session live acoustique de Texas avec une version totalement acoustique de Say What You Want. Donc le gros succès de Texas qu'on peut entendre dans différentes versions sur la compilation, puisqu'il y a cette fameuse version hip-hop avec le Wu-Tang Clan. Donc une association comme ça qui peut paraître improbable, mais qui fonctionne complètement. Alors justement, comment s'est fait cette rencontre avec le Wu-Tang Clan ?
En fait, ça s'est fait par l'intermédiaire de notre manager dans notre bureau à New York. Il les a rencontrés par hasard pour des histoires de merchandising et ils ont discuté de bagnoles. Ils ne savaient pas que c'était notre manager. Ils lui ont demandé alors « qu'est-ce que tu fais ?» Il leur a répondu « bah moi je suis le manager de Texas. Ah, on connaît la fille qui est en bleu, on aime bien. » Et nous, on a été surpris de l'apprendre. On lui a dit « retourne-y immédiatement et demande-leur s'ils aimeraient travailler avec nous. » Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que tout s'est produit. Ce qui est marrant, c'est qu'on est restés amis. On sort parfois des disques ensemble. C'est vrai que c'est vraiment rigolo de se dire qu'on vient d'horizons tellement différents et qu'on a trouvé des points communs.
Le very best of de Texas prouve combien les titres de Texas nous sont familiers ici à WFM. Et est-ce que écrire des chansons reste toujours une sorte de rêve d'adolescent qui se prolonge ?
En fait, quand on a écrit une chanson, on n'a pas du tout cette vision-là. C'est un moment privé, c'est quasiment un recueillement et on est juste accaparé par ce moment. Par contre, quand le single sort et passe à la radio et qu'on se voit à la télévision, c'est à ce moment-là qu'on revient à nos rêves d'adolescent. Qu'on se dit « Ah mon Dieu, c'est incroyable que je sois en train de faire ça ». Mais pour le processus de création, non. Je pense que si on s'y attardait et qu'on pensait comme ça, on ne pourrait pas écrire.
Et est-ce qu'on fantasme sur des personnes, sur des chanteurs qu'on aime? Par exemple, on se souvient du clip de I Know Smile où là carrément c'est un hommage à Elvis Presley, le Comeback 68.
Non.
Je ne pensais pas, c'est plutôt faire des choses qu'on n'avait pas fait avant. C'est vrai que c'est génial de travailler avec des réalisateurs de clips qui ont beaucoup de talent et qui ont des idées folles comme se déguiser en Elvis. C'est quelqu'un que j'adore, mais juste profiter du moment et m'amuser. D'une façon générale, je ne mets pas les gens sur un piédestal.
En tout cas, nous, on a la chance d'avoir la vraie Charlene Spiteri avec Texas pour cette compilation et pour surtout le live. Bah, alors, on parle de ce morceau, I Know Smile. C'est un morceau qui est très énergique. Tony va donner de la voix. Est-ce que tu es OK pour chanter cette chanson? Alors, c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Yeah, 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 yeah. Give me something like loving. You took me in so soon. You took my feelings for nothing. Came back at noon. Just baby, I'm ready to show myself to you. So if I lose my patience, you must try to understand. And if I lose my patience, oh yeah. Cause you make me feel, yeah, yeah. Cause you make me feel why, yeah, yeah. You touch my inner, yeah, smile, yeah, yeah. You got me, yeah, in the mood, yeah, yeah. So come, yeah, on and make, yeah, your move and free me. You make my wishes as much as your kisses make my blue. If I'm a river, where will you skate away to? Just baby, I'm ready, I'm falling into you. So if I lose my patience, you must try to understand. And if I lose my patience, oh yeah.
Lows, so I know I'm not alone. Put your hands around my soul. Love and hate are the same. You're the only one that makes me feel this way. Playing games day to day. Follow me around ball and chain. Hands on my body, I know that you want me. Got you on the edge and it's true. I'm making you nervous, I do that on purpose. Cause you know what we about to do. Break up for the makeup. Cause I love the way you wake up in my bed. And we don't need to talk much. You can say it all, use in your hands. Like, ooh la la la. Make you say my name out loud. Like, ooh la la la. Cause I love the way you sound. Ooh la la la. Make you say my name out loud. Like, ooh la la la. Cause I love the way.
Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock avec Dom Kiris.
Il était une fois Lonely Boy par The Black Keys. Si le rock est encore présent dans ce nouveau millénaire, il faut avouer par contre qu'il manque parfois de roll, ce petit coup de hanche sexy façon Elvis the Pelvis qui fait toute la différence. Et pourtant, il ne suffit généralement que de trois accords salvateurs et de se concentrer sur le rythme. Dan Auerbach et Patrick Carnell, les deux musiciens d'Akron dans l'Ohio, ont su les retrouver afin de les manipuler dans tous les sens avec du swing, de la dérision et une bonne dose d'humour. Pour ce faire, ils sont partis du bas de l'échelle de la production musicale en formant un groupe minimaliste à deux instruments. Juste guitare, batterie et chant pour enregistrer dans leur authentique garage en parpaing des albums rugueux sur un magnéto 8 pistes. En 2010, ils sont contactés par Brian Burton, alias Danger Mouse, producteur de Gorillaz et de U2, pour produire Tighten Up, leur premier hit. 1 million d'exemplaires vendus les confortent pour réaliser ensemble El Camino. Ce 7e album révèle une richesse mélodique accrocheuse insoupçonnée, tout en balayant un pan d'histoire du rock des 50s aux 70s. En guise d'introduction, Lonely Boy nous renvoie aux premiers émois du rock'n'roll de Train Keep Rolling. Selon Dan Auerbach, il s'est directement inspiré de la version de Johnny Burnett datant de 1951. Mais alors qu'une vidéo à gros budget était en cours, tout a été refusé par The Black Keys, préférant ne retenir qu'une danse improvisée par un agent de sécurité en une seule prise. Avec ce clip minimaliste et plein de feeling, l'esprit du rock'n'roll est sauf et respecte leur devise « Less is more » pour faire de Lonely Boy la chanson rock des Grammy Awards 2012.
Oui FM, la radio du rock. Apocalypse Now sur Oui FM avec Iris.
Bonjour à tous, comme chaque semaine sur Oui FM, on parle rock et cinéma. Et aujourd'hui, retour sur une séquence culte, la scène de torture de Reservoir Dogs. Tellement culte que Quentin Tarantino détaillera à son sujet son concept de la BO parfaite. Quand c'est bien fait, vous ne pouvez plus jamais entendre cette chanson sans penser à la scène qu'elle illustre, explique-t-il. Je sais pas si Jerry Rafferty a vraiment apprécié les connotations que j'ai apportées à Stuck in the Middle with You. Il y a de fortes chances que ça ne soit pas le cas. Et effectivement, le morceau coécrit par le guitariste de Steeler's Wheel en 1972 est désormais indissociable de la scène emblématique et choc de Reservoir Dogs où Mr. Blonde, joué par Michael Madsen, mutile un flic jusqu'à lui découper l'oreille en esquissant un pas de deux chaloupé au rythme de Stuck in the Middle with You. With you. Au tout début, le cinéaste a pourtant envisagé Ballroom Blitz de The Suite. Heureusement, il se tourne vite vers Stuck in the Middle with You qui, une fois envisagé, ne le quitte plus. Tarantino fait même passer les auditions au son du morceau de Steeler's Wheel. Même si, précise-t-il, les acteurs n'étaient pas obligés d'utiliser cette chanson. Ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. Mais presque tous sont venus avec Stuck in the Middle with You, disant qu'ils avaient essayé de trouver autre chose, mais que celle-ci correspondait parfaitement. Pressentiment confirmé dès le premier passage. Le gars n'était même pas bon, s'esclaffe le réalisateur. Mais c'était comme voir le film. Je me disais, oh mon Dieu, ça va être génial. Et la suite lui a donné raison, même si tout le budget bande originale a failli y être consacré. Tarantino avait même accepté de ne pas avoir d'autres morceaux dans le film que Stuck in the Middle with You. Bon, les producteurs ont quand même bien fait leur job, puisqu'au final, la BO de Reservoir Dogs regorgera de pépites. Apocalypse Now, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.
Retrouvez tous les épisodes d'Apocalypse Now en podcast sur OuiFM.fr. Oui, FM. Oui, FM. Oui FM, la session acoustique.
Aujourd'hui, en ce vendredi 14 avril, on célèbre sur Oui FM la sortie du nouvel album de Temples Exotico. On va s'aventurer dans leur univers rock entre psychédélisme et pop vaporeuse. Le groupe britannique qui nous a enregistré un vrai voyage sonore, hein, captivant de précision et de maturité, voire même un peu de complexité malgré leur jeune âge. Ils sont passés nous voir il y a quelques jours dans les studios pour nous présenter donc ce quatrième album. Et au micro, c'est Tom Walmsley et Adam Smith, bassiste et guitariste de la formation, qui nous en parlent.
La complexité de ce que tu entends, je pense qu'en fait, c'est pas quelque chose qui a été réfléchi à l'avance, c'est quelque chose qui s'est passé en studio, parce qu'on était dans le studio de Sean, où effectivement, on dirait vraiment une caverne au trésor, il y a des instruments absolument partout. Et c'est vrai qu'en tant que musicien, quand on voit des instruments comme ça qu'on n'a jamais vu, sur lesquels on n'a jamais joué, on ne peut pas s'empêcher que de les prendre et de commencer à expérimenter un peu avec. Donc je crois que cette impression, elle vient surtout de là-bas. Et ça s'entend sur tous les titres du disque, mais c'est pas quelque chose, on s'est pas assis en se disant bon, on va faire un truc plus complexe que d'habitude.
Et c'est vrai qu'à l'écoute de ce disque aussi, j'ai trouvé que cet album était assez apaisant. Bon, je sais pas trop s'ils suivent un petit peu ce qui se passe en France en ce moment, mais ça fait du bien d'écouter ce genre de son. Quand on l'écoute aussi ce disque, on a l'impression qu'on a une sorte de voyage, hein, qui est construite. Ils en parlent aussi dans le dossier de presse. Est-ce que c'était ça vraiment l'idée de départ aussi de nous emmener quelque part un but précis avec ce disque?
C'est vrai que le thème du voyage sonore, c'est un thème récurrent et on a surtout essayé de l'exprimer avec les interludes entre les titres, par exemple Saltria, Head in the Clouds. Et effectivement, l'idée, on s'est dit plus que jamais, ce serait de faire d'enregistrer un album qui serait un voyage, l'auditeur ferait l'expérience d'un voyage. Ça peut faire un peu cliché. On s'est aussi dit qu'Exotico, ce serait une espèce d'île et chaque titre serait un endroit qui se trouve sur cette île. Donc c'était semi-intentionnel, on va dire, mais on voulait surtout pas faire un album concept.
Et surtout un album aussi qui est relativement donc complet, puisqu'il y a des interludes, 16 morceaux au total. C'est quand même une belle prise de risque aujourd'hui de sortir un album aussi vaste, surtout quand on sait que la façon de consommer la musique a beaucoup évolué. Maintenant, les artistes vont sortir des fois des EP, juste des titres. Vous êtes parti complètement à l'opposé de ce truc-là. C'était complètement voulu, intentionnel. Exotico, il avait besoin de prendre autant de place finalement.
Alors c'est vrai qu'on a pris cette décision quand il fallait, on était à la fin du mastering, il fallait décider de l'ordre des titres. Et ce qu'on fait généralement avec les autres disques, c'est qu'on définit 10 ou 12 qu'on garde. Et là, je sais que moi je me le suis dit personnellement, mais les autres aussi, on s'est dit mais pourquoi on ferait ça en fait? On a plein de titres qui sont bien dans des styles très variés, pourquoi on ferait pas des interludes pour les connecter entre eux et pourquoi pas absolument tout garder, notamment parce que nous en tant que groupe on n'avait jamais fait ça, on n'a jamais eu cette approche là on avait toujours sur nos disques précédents vraiment mis en avant les singles et peut-être au détriment du reste. Donc là on s'est dit surtout qu'à notre époque il y a de plus en plus de titres, la musique est de plus en plus courte, donc pourquoi pas faire une expérience d'une heure complètement immersive dans laquelle on se plonge.
Et c'était un pari plutôt réussi, en plus avec donc plein de morceaux variés et des morceaux, c'est vrai qu'on aime un petit peu plus que les autres sur Oui FM. Il y a notamment votre titre Gamma Rays qui a été le premier qu'on a diffusé et que vous allez nous jouer en plus en session. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce titre? C'est comment il est né ce morceau? C'est quoi son histoire?
Well, James wrote that one really. We had stuff to do with it, but.
Alors c'est difficile de répondre parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a été principalement écrite par James. Et nous, on y a contribué un petit peu. Je crois que c'est une chanson qui date d'il y a assez longtemps, surtout le riff de guitare. Après, on peut vous dire que les paroles, du moins, ça vient de cette idée que la nature peut être un bienfait pour nous, mais aussi quelque chose de très dangereux. Par exemple, on va au soleil, mais ça peut aussi nous faire beaucoup de mal, et accepter que la nature a un pouvoir qui est plus grand que celui que nous, on a.
Un beau message et une très belle chanson qu'on va écouter tout de suite sur Oui FM en session live, le groupe Temples avec Gamma Rays. Thank you.
is a feeling out tonight. Now they say that you want it all. There's a feeling out tonight. Now soaking up the rain.
Sur WeFM avec le titre Gamma Rays, morceau extrait de Exotico, leur nouvel album disponible depuis ce matin dans tous les points de vente habituels. Nous avons Tom et Adam, bassiste et guitariste de la formation, en interview. On continue justement d'en savoir un petit peu plus autour de ce nouvel album. Est-ce qu'on peut dire que finalement cet album il a un peu une dimension un peu écolo? C'est vrai qu'on en parle beaucoup hein, de l'écologie. Il y a beaucoup de musiciens qui intègrent des messages dans leur musique. Est-ce que pour vous c'est un petit peu ça aussi, au-delà du côté poétique de votre disque Exotico? Est-ce qu'il y a un petit peu d'engagement écologiste derrière ça?
C'est vrai que c'est un sujet qui nous a toujours tenu à cœur et ça s'est exprimé sur des disques précédents. C'est un peu ce paradoxe entre la nature qui crée et qui détruit en même temps. Mais je dirais que c'est pas quelque chose qui transparaît sur ce disque, du moins pas sur tous les titres. C'est plus ou moins présent dans les paroles, mais on s'est pas dit on va s'asseoir, on va faire un disque à ce sujet. Absolument pas du tout. C'est vrai que Liquid Air et Gamma Ray ont ce genre d'idée, et peut-être qu'au fond on est beaucoup plus écologiste qu'on ne le pense.
Et c'est pas mauvais dans un sens, on va pas leur reprocher. Alors pour ce disque, vous en parliez tout à l'heure, vous parliez d'un certain Sean à la production. C'est évidemment Sean Ono Lennon avec qui vous avez déjà travaillé, si je me trompe pas. Pourquoi finalement avoir eu envie de collaborer avec lui, et au-delà du fait qu'il avait plein d'instruments dans son studio, comment ça s'est passé l'enregistrement avec Sean?
Oui,
met him at Desert Days Festival, didn't we, out in on the west coast of America.
Donc en fait, on l'a rencontré au festival Desert Days qui se tient en Californie. Je me rappelle plus où ça se situe exactement. Et on a passé quelques jours juste dans la compagnie l'un de l'autre et on a discuté les uns les autres. Et je crois que déjà à l'époque, on s'est dit qu'on allait travailler sur quelque chose ensemble. Et je sais pas si tu sais, mais des fois, on rencontre des gens et juste à un niveau créatif, on sent que ça match, on sent qu'on comprend où on veut en venir. Et on a commencé donc à travailler ensemble sur Paraphernalia, et c'est vrai que le monde, à cause du Covid, le monde a arrêté, tout s'est arrêté, et on en a eu pour 1 à 2 ans pour compléter cet album. Et pour ce qui est du temps qu'on a passé ensemble en studio, c'était absolument magique, en dehors de tous les instruments qu'il avait, notamment parce que c'est vraiment un gars super marrant. Il a un sens de l'humour incroyable, très très british, et bon, on dit pour rigoler que c'est le plus britannique des Américains qu'on a jamais rencontré.
En tout cas, on espère peut-être d'avoir une interview un jour sur WeFM, hein, Sean O'Nolenon, tu es le bienvenu. Alors sur ce disque, en plus donc d'avoir la participation d'un producteur de cette carrure, on va retrouver pas mal d'orchestrations sur les morceaux, des instruments à cordes notamment. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le rock, notamment dans les morceaux des Beatles et Beach Boys, et qui revient un petit peu à la mode, j'ai l'impression. On a pu les entendre dans le dernier album d'Arctic Monkeys, sur le nouveau titre de Noel Gallagher. C'est important pour eux justement, voilà, d'apporter cette touche à l'album, de rapporter toute cette orchestration, toute cette effervescence.
Alors, c'est vrai que notre premier album avait déjà des arrangements de cordes, mais c'était pas des vraies cordes, c'était des enregistrements mellotron, donc il n'y avait pas de personne avec nous qui jouait des instruments à cordes, donc on peut dire que c'est vraiment la première fois avec ce disque qu'on a utilisé ces arrangements. Ce sont des gens que Sean connaissait d'ailleurs, qui sont venus collaborer avec nous sur ce disque. Mais à titre personnel, on a toujours beaucoup apprécié l'utilisation de ces instruments qui viennent d'orchestres traditionnels. Ça donne une dimension vraiment cinématographique au son. Et je pense que pour nous, c'était important, en dehors de tous les instruments qu'il y avait dans le studio de Sean, de mettre des cordes pour vraiment insuffler une vie nouvelle aux mélodies qu'on avait.
Alors, parmi les autres morceaux qu'on a adoré en tout cas sur cet album, et puis que vous allez aussi nous jouer, puisqu'on en profite que vous êtes avec vos instruments dans le studio, il y a le titre Afterlife. Alors quand on écoute un petit peu les paroles, on a un petit peu la sensation d'isolement, de relation à distance. Est-ce qu'on peut dire que ce titre, c'est un titre du confinement? On le valide complètement, cette description?
Yeah, I guess it's,
ah oui, absolument. C'est, je crois, à mon avis, je vois ce titre comme une conversation entre deux personnes qui sont effectivement à une grande distance l'un de l'autre. Et pour moi, ça semblait un bon titre à mettre vers la fin du disque pour dire que la vie continue, et même dans la vie après la mort, il y a une forme de continuité. Donc dans ce sens, même après le confinement, ça continue.
Temples en session live sur WeFM. Ils viennent de nous en parler, hein, de ce titre Afterlife. On écoute tout de suite leur version acoustique. Sur Oui FM avec le groupe britannique Temples qui est dans les studios pour nous présenter leur nouvel album Exotico dans les bacs depuis ce matin. Un album qu'on apprécie en vous faire découvrir et puis partager aussi l'univers de ces jeunes musiciens. La suite de notre interview et surtout qui dit session acoustique sur Oui FM dit reprise. Aujourd'hui, vous allez nous jouer du Velvet Underground et leur cultissime Sunday Morning. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous, pour le groupe? Qui a choisi cette cover?
James mentioned it, I think he wanted to do it.
Alors, c'était peut-être James, je sais pas. En tout cas, c'est une chanson qu'on connaît tous depuis longtemps et qui fait un peu partie de notre environnement depuis un moment. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore joué en live comme ça. Ça, c'est vraiment la toute première fois. Et en fait, pour nous, ce qu'elle évoque cette chanson, c'est que c'est vraiment, on entend, c'est vraiment le son d'un samedi, d'un dimanche matin, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans cette ambiance de dimanche matin. Moi, personnellement, d'ailleurs, le dimanche, c'est mon jour préféré de la semaine, même si je pense pas que c'était le cas pour Laurita. Je crois que c'était plutôt, il avait trop fait la fête la veille. Et pour lui, le dimanche, c'était horrible.
Mais
moi, personnellement, j'adore cette chanson et j'adore.
On va juste finir cette interview avec une petite question habituelle, à savoir votre actu. Est-ce que vous avez prévu notamment une tournée française? Est-ce qu'il y a des dates qui vont bientôt être annoncés pour les auditeurs de Oui FM pour qu'ils puissent vous voir sur scène?
No, I mean we'll certainly be back later in the year to do our own tour here.
C'est pas ce qu'on a le droit. On sait pas vraiment ce qu'on a le droit d'annoncer en fait pour l'instant. On sait qu'on va revenir en tournée plus tard cette année et qu'on va faire au moins 2 festivals en France.
Merci beaucoup Temples d'être passé nous voir dans les studios. Merci pour cette session et puis maintenant vous avez l'adresse de la radio donc vous revenez quand vous voulez. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Et comme promis, on finit cette interview avec la reprise de Sunday Morning du Velvet Underground interprétée en session live par le groupe Temples sur Oui FM.
Just a restless feeling by behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning.
Radio du Rock.
Histoire du rock avec Dom Kiris.
Il était une fois I Want You par Bob Dylan. Ne vous fiez pas à l'aspect simpliste du titre de la chanson I Want You. Tout son agencement est taillé pour accrocher l'auditeur comme rarement Bob Dylan l'a fait. Cependant, dans le texte sur un amour qui semble vain, il convoque une collection de personnages surréalistes dont il est coutumier, comme le fossoyeur coupable, le joueur d'orgue de Barbarie, un politicien ivre ou encore la reine de pique. Mystère de la création, tout semble là pour brouiller les pistes afin de démontrer la situation compliquée que l'auteur est en train de vivre pour ne retenir qu'une seule chose, c'est toi
et je te veux terriblement. Après plusieurs versions réécrites, I Want You est la dernière chanson enregistrée pour l'album Blonde on Blonde à Nashville. Dylan retardait sans cesse son enregistrement jusqu'au dernier moment, mais c'était sans compter sur l'insistance de l'organiste Al Cooper. Il raconte qu'il passait ses soirées en accompagnant Dylan comme une sorte de magnéto humain pendant que le songwriter peaufinait ses paroles. Il aimait tellement la chanson qu'il s'est chargé lui-même de l'apprendre aux musiciens de session. Arrivé en studio en pleine nuit, tout était prêt pour enregistrer en une ou deux prises, comme Bob Dylan aime le faire. I Want You est lancé sur un rythme au ballet acoustique, sur l'intro à l'harmonica, la fameuse marque de fabrique de Dylan. Un modèle du genre pour Blonde on Blonde, le premier double album de l'histoire du rock, sorti sans le nom de l'artiste et orné d'une photo floue en mai 1966.
Oui, FM. Oui, FM.
Eh oui, c'est reparti la rentrée, mais on revient un petit peu en arrière, début juin 2022, quand une nouvelle fois nous avons eu la chance d'interviewer Muse pour WFM, avant la sortie du nouvel album We Love the People. Nous sommes très heureux de retrouver Dom Howard, le batteur, et Matthew Bellamy, le leader de Muse. En découvrant We Love the People, le 9e album de Muse, on s'aperçoit que les chansons sont très variées. Il représente même tout le savoir-faire de compositeur de Matthew Bellamy. Alors, est-ce qu'on peut considérer cet album comme une sorte de best-of de Muse, mais avec des chansons inédites?
Oui, c'était quelque chose dont on a parlé quand on a commencé. C'est peut-être le premier album où on a écouté notre histoire. On voulait prendre ce qui faisait les morceaux typiques de Muse et ne se concentrer que sur ces parties-là. On voulait les rendre le mieux possible. Si on devait faire un morceau lourd, on voulait en faire le meilleur morceau lourd qu'on puisse. On a appliqué cette méthode partout. Même si on devait faire un morceau synth-pop comme Compliance, on voulait que ce soit meilleur que Undisclosed Desires, par exemple. On a regardé notre histoire et on a fait des versions réactualisées de styles auxquels on nous associe le plus, et en faisant les meilleures versions possibles. D'une certaine manière, c'est un peu un best-of de Muse qu'on s'est créé tout seul.
Vous venez tout juste de commencer la tournée d'été avec les nouvelles chansons. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez joué pour la première fois la chanson Will of the People en ouverture de concert?
Je ne pouvais pas voir grand-chose. Je portais un masque. Et le masque avait deux petits trous. Tu ne pouvais pas regarder devant toi, tu pouvais juste voir vers le bas. J'arrivais à avoir ma guitare, mais je n'arrivais pas vraiment à voir le public. La sensation était bonne, ça sonnait bien, mais je n'arrivais pas vraiment à voir le public. Quand j'ai enlevé le masque, je me suis dit, ah, ils sont là. Mais c'était super de jouer ces titres. Il faisait très chaud et j'avais un énorme symbole de l'album en feu derrière moi. Donc il faisait plutôt chaud sur scène.
Dès le premier titre, Will of the People, ça sonne comme un standard de glam rock et on entre tout de suite dans la démesure et la puissance de Muse. Est-ce que vous revendiquez un côté heavy rock?
Oui, je pense. Cet album a des guitares plus lourdes, bien plus que sur l'album précédent. Drone est un album à guitare, mais celui-là est peut-être plus extrême. Quand on fait des morceaux comme One Stand Down ou Killed or Be Killed, ça fait peut-être partie des morceaux les plus heavy que Muse n'ait jamais fait. On voulait faire un album plus tourné vers de vrais instruments. Il y a beaucoup de très bonnes batteries sur l'album. Il y a du piano et beaucoup de guitare et de basse, évidemment. L'album d'avant s'aventurait un peu sur des programmations et des sons électroniques. Il y avait toujours de vrais instruments, mais ce nouvel album est plus organique.
C'est toujours un grand plaisir de revoir Muse pour la sortie de l'album événement de cette rentrée, le 9e album Will of the People, qui est sous haute influence du chaos de notre époque, mais est-il aussi motivé par le manque de concerts depuis 2019?
Quand on a commencé à bosser sur cet album, on utilisait à nouveau plus d'instruments organiques. Contrairement à l'album d'avant qui avait plus de synthé. Et n'ayant pas fait de concert pendant un long moment, on s'est remis à jouer ensemble et ça s'est naturellement orienté vers quelque chose d'un peu heavy. Le feeling et l'intention qu'il peut y avoir quand tu joues ces chansons vient probablement du manque d'avoir joué en concert. Et aussi, en écrivant ces morceaux, on pensait à ce que ça donnerait sur scène. Ça vient sûrement de ce manque.
Qu'est-ce que le premier single, One Stand Down, raconte sur votre état d'esprit au moment où vous l'avez écrit ?
L'album renferme un état d'esprit qui couvre une période assez longue. C'était pas un moment précis. Quand on a commencé à mettre à plat des idées pour l'album, quand on a fait des démos, c'était une période de transition aux États-Unis. C'était le moment où Trump partait et il y avait une ambiance très chaotique qui ressemblait à une guerre civile. Ou en tout cas, on avait l'impression qu'une guerre civile pouvait arriver. Donc c'est là qu'on a commencé et il y avait également la pandémie. En gros, on était dans un état d'esprit assez apocalyptique. C'est quelque chose d'assez courant chez Muse, sauf que là, il y avait une connexion à la réalité. C'était pas juste des histoires de paranoïa et de fiction. Donc l'album capture le ressenti de vivre ces événements-là, principalement aux États-Unis. Ça retranscrit aussi ce sentiment depuis deux ans d'une déstabilisation de l'Ouest et nos préoccupations par rapport à tout ça.
Cette semaine de rentrée, Muse, une fois de plus, crée l'événement en sortant son 9e album Will of the People. C'est un peu la bande-son d'une époque où le rock se doit de surjouer pour se faire entendre dans le chaos.